Alors, le titre de cette séance du séminaire est l'euthanasie, rupture de l'alliance thérapeutique. Mais il y a plutôt un long sous-titre, un titre biblique qui est Ah, si nous étions morts dans les déserts. C'est le cri du peuple d'Israël dans le livre des Nombres, quand il est dans le désert, et un sous-titre encore L'alliance thérapeutique, sagesse face à la mort et à la tentation de l'euthanasie. Cette introduction voudrait mettre en face deux attitudes présentes dans ces cas de l'euthanasie, la confusion ou la sagesse. Il n'est pas courant de parler explicitement d'euthanasie, je parle de l'Italie ou de la France ou d'autres pays, on utilise plutôt l'expression « laisser mourir une personne qui est tenue en vie par des machines » ou on dit simplement « débrancher les machines ». S'il arrive que certains parlent explicitement d'euthanasie, là où elle est légale, comme en Belgique, pour des malades incurables, ils ne seront pas gênés de parler d'injection létale ou du fait qu'une personne malade consomme des produits prescrits par un médecin pour se donner la mort. C'est le cas du suicide assisté. Tout en veillant à ce que la mort arrive sans douleur. Par ailleurs, dans certains cas, on aura affaire, pour soulager les patients, à une dose massive d'analgésiques donnée dans le but de provoquer la mort, pour induire au plus vite la fin définitive des douleurs et de la souffrance. Mais cela amène à penser que lutter contre la douleur est une forme d'euthanasie. Ce qui revient encore à déclarer que l'euthanasie est pratiquée un peu partout, sans que cela soit clairement dit. De cette manière, les œuvres bonnes sont salies, car confondues avec les mauvaises. On ne distingue plus le bon grain, qui pourtant est là, et on ne voit que délivré partout. Enfin, on entend parler du respect de la dignité de l'homme et de mourir dans la dignité, quelle que soit la situation, handicap, vieillesse, maladie, solitude. Pour toutes ces raisons, le terme euthanasie est ambigu. Il vit dans un monde de confusion. Certes, les situations dans lesquelles il est employé sont complexes. Ce qui est tragique, c'est qu'au nom de la compassion envers ceux qui souffrent, on ne veut pas clarifier les différentes manières d'agir, selon la nature des actes eux-mêmes et selon les intentions des personnes concernées, malades ou membres de la famille, médecins ou soignants. Car des différences existent. Pourquoi un chercheur de diamants précieux serait-il attentif à distinguer des pierres authentiques de grande valeur des faux diamants, tandis que l'homme, tout homme, ne chercherait pas à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal dans les différents actes qu'il peut poser. Il s'agit d'une analogie, mais pour distinguer un vrai diamant d'un faux, il faut un savoir, une sagesse. De même dans l'agir, pour faire le bien et éviter le mal, il faut une sagesse. La sagesse est une expérience que chaque femme et chaque homme est appelé à rechercher, à acquérir au long du chemin de la vie. Qu'il s'agisse de l'enfant qui doit être sage, ou qu'il s'agisse d'un jeune, d'un adulte, qui recherche le savoir-faire pour exercer un art ou une profession. La sage femme en est le prototype. Qu'il s'agisse d'un ami qui donne un conseil précieux et juste à une personne qui en a besoin et le demande. Serions-nous fâchés si quelqu'un essayait de nous vendre des faux diamants? Encore faudrait-il avoir l'argent nécessaire pour les acheter. Alors pourquoi acceptons-nous d'une part des faux gestes de compassion et d'autre part de voir salir des actions justes en les laissant faussement cataloguer comme des cas d'euthanasie? Pourquoi encore devrions-nous accepter que la qualification de sagesse soit faussement attribuée, comme dans cette affirmation de ceux qui demandent l'euthanasie, ou plutôt les pro-euthanasie? Pour venir au monde, nous avons besoin d'une sage femme, et pour en partir, nous avons besoin d'un homme sage. Cette expression qui se retrouve dans les sites pro-euthanasie, je l'ai retrouvée dans le livre de Tugdual Derville, La bataille de l'euthanasie. Dans mon exposé, que ce n'est pas la première rédaction, je suis entré en dialogue avec ce livre pour renouveler cet exposé. Cette phrase de l'homme sage qui à la fin de la vie devrait nous aider à partir, naturellement on entend les médecins qui met fin volontairement à la vie des gens qui les lui demandent. Et la phrase, Tugdual Derville n'a pas écrit dans son livre, mais inspirée par une phrase de Montaigne dans les Essais. Même si on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il entendait Montaigne, s'il voulait vraiment prôner pour l'euthanasie ou pas. L'objectif de cet exposé est de comprendre l'éthique médicale en général et en fin de vie en particulier face à la problématique soulevée par l'euthanasie. Pour réaliser cette démarche de vraie sagesse, nous sentons la nécessité de laisser notre intelligence humaine être illuminée par la parole de Dieu, afin de replacer avec clarté la dimension de la souffrance et de l'épreuve de la mort dans le milieu médical d'aujourd'hui, un milieu où la vie ainsi que la mort sont largement médicalisées. Cela nous permettra ensuite d'organiser la réflexion éthique qui en découle face à la tentation de l'euthanasie, elle sûrement médicalisée. Alors, pour dépasser cette impasse entre confusion et sagesse, il faut alors chercher cette sagesse dans, j'ai dit, la sagesse de Dieu apprise durant la marche dans le désert devant l'épreuve de la mort. Sur la base d'une analyse de l'Écriture sainte, les rapports entre patient et médecin peuvent être caractérisés en trois types d'attitudes. Il s'agit de considérer l'alliance thérapeutique qui s'établit entre patient et médecin à partir du fondement de l'alliance que Dieu a construite avec l'humanité à travers le peuple d'Israël. En particulier, concernant les questions soulevées par l'euthanasie, les lieux où ces mêmes questions se croisent est, j'ai repéré cela, dans la marche dans le désert. Dans la marche dans les déserts du peuple d'Israël vers la terre promise. Pour développer ici notre réflexion, nous ne pouvons analyser que quelques points de cette marche dans les déserts, mais surtout des points significatifs du livre de Nombres, tous liés à la sagesse de Dieu apprise dans cette marche. Alors, le premier point de cette réflexion que j'ai fait, c'est: est-ce que l'euthanasie est l'expression d'un maternalisme, d'un faux père compatissant et miséricordieux? J'essaie de poser un regard critique sur l'autonomie absolue des patients. Je parle de la demande de mourir, déception ou confiance dans la promesse. Nous partons du texte du livre des Nombres, au chapitre 13 et 14. Le contexte est celui de l'exploration de la terre de Canaan et l'invitation à entrer dans la terre promise, riche en ressources naturelles mais également habitée par d'autres populations fortes et puissantes qui font peur. Quelques-uns des explorateurs annoncent les dangers liés à une telle entreprise et prévoient une mort prochaine au cours de la bataille contre les gens du pays. Les fils d'Israël ont tellement peur qu'ils crient et pleurent. Entrer dans la terre promise, comme Dieu le leur demande, leur semble impossible à leur seule force. Ils semblent enfermés dans la peur d'être seuls face à leur choix. Leur confiance en Dieu fait défaut et ils protestent contre Moïse et Aaron en disant: « Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si du moins nous étions morts dans ce désert. Pourquoi le Seigneur nous mène-t-il dans ces pays où nous tomberons sous l'épée? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Face à la peur de la mort, le peuple invoque la mort et oublie d'une part le soutien que Dieu a prodigué dans le passé devant tous les dangers, la libération d'Égypte en prémisse, et d'autre part la promesse d'une terre florissante. Le peuple n'a plus de mémoire du salut et ne croit plus à la prophétie de la terre promise. Surtout, il ne croit plus à la présence de Dieu qui ne l'a pas abandonné à lui-même et qui continue à l'accompagner dans sa marche. Caleb et Josué exhortent le peuple à faire confiance en Dieu, car le pays où Dieu les fait entrer est riche en beauté et en bien. Caleb et Josué disent « Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens de ces pays. L'ombre de leur Dieu s'est éloignée d'eux, alors que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. » L'invitation à n'avoir pas peur est liée à la présence du Seigneur parmi eux parce que le Seigneur agit en faveur de son peuple et qu'il demeure fidèle à son alliance. Même sans parcourir davantage ce texte, le cri du peuple qui invoque la mort nous permet d'en recueillir les sens et d'établir un lien avec l'expérience de ceux qui souffrent dans la maladie et qui sont proches de la mort. La vie et la santé génèrent les promesses que la vie continuera et que l'on pourra vivre heureux. La maladie et la souffrance, par contre, provoquent la déception et la peur de la mort, qui va parfois jusqu'à demander de mourir. Demander la mort semble être la seule possibilité envisageable lorsqu'on parle de l'image d'autonomie que l'on s'est forgé par soi-même en s'imaginant d'avoir été laissé seul et même abandonné parce que le chemin n'est plus vers la terre promise de la vie et du bonheur mais vers le lieu où l'on risque de mourir. Le deuxième point que je veux souligner, c'est les questions liées au pourquoi que les malades se posent, le chemin et l'eau du rocher. On est au chapitre 20 de Nombre. L'invocation de la mort revient souvent, tout au long de la marche dans les déserts, dès qu'il n'y a plus d'eau. En effet, au chapitre 20 de Nombre, le peuple murmure « Ah, si seulement nous avions expiré quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avez-vous mené l'assemblée du Seigneur dans ces déserts? Pour que nous y mourions, nous et nos troupeaux? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte et nous avez-vous amené en ce triste lieu? Ce n'est pas un lieu pour les semailles, ni pour les figuiers, la vigne ou le grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » La répétition du pourquoi dans le texte est typique de celui qui souffre et n'en connaît pas le sens. Combien de fois a-t-on entendu ces pourquoi? Pourquoi la vie va-t-elle finir? Pourquoi la souffrance? Pourquoi cette vie qui semble inutile? Celui qui souffre perd souvent le sens des événements. Cette réaction est provoquée par un manque de vie. La maladie et la souffrance sont un manque de vie, de pleine vitalité. Elles sont ressenties comme la mort qui approche par le fait même que la vie dans sa plénitude, ne fût-ce qu'en partie seulement, fait défaut. Parfois, la cause de cette souffrance est le fait de ne pas supporter sa propre déchéance, son état de dépendance, c'est-à-dire la perte de sa propre autonomie et de l'image de soi que l'on s'était construite pour paraître devant les autres. Dans ces situations, on a peur d'être rejeté par les autres et on veut se cacher dans la mort grâce à la mort. Dans ce livre, Tu gloire d'Erville met en évidence comment le cas médiatisé d'euthanasie met en évidence que les gens refusent cette image de soi-même qui va vers la déchéance et la dépendance. Cette lutte contre la dépendance et la déchéance liée à la vieillesse, à la maladie, au dernier moment de la vie, afin de pouvoir conserver l'image performante de soi, pour soi-même et pour les autres, a évidemment été reprise par le transhumanisme. L'homme doit toujours être autonome et bien portant, donner une image parfaite de lui-même. Mais pourquoi la dépendance et la déchéance font-elles si peur? Probablement parce que ces situations ressemblent au désert. Et parce que le désert est le symbole de la perte des repères fondamentaux. C'est un lieu sans route balisée, c'est un lieu sans chemin. C'est un lieu où tout est sable, le lieu où il n'y a rien pour s'appuyer avec sûreté comme sur un rocher, tandis que le rocher est solidité et vérité. Ce lieu, le désert, est le lieu sans eau, tandis que l'eau est vie. La demande du sens de la vie est mise à mal par la souffrance, ce manque de vie. On ne sait pas où l'on va, on ne sait pas sur qui s'appuyer, on ne sait pas ce qu'on va manger ni boire pour survivre. Cependant, Dieu a conduit son peuple à travers le désert, l'a soutenu et l'a nourri maintes fois. Et Dieu donnera encore l'eau à boire. Il demande à Moïse de prendre les bâtons qu'il utilise pour conduire le peuple sur les chemins et parler au rocher qui donnera son eau. Nombre 28. Moïse ne parle pas au rocher, mais il le frappe de son bâton pour en faire sortir de l'eau. Ce texte mériterait d'être mieux analysé, approfondi que ce que nous pouvons faire ici. Dieu demande à Moïse de parler au rocher, parce que Dieu voulait que le peuple comprenne que c'est lui, Dieu, le vrai rocher, en qui croire pour recevoir les dons de la vie grâce à l'eau à boire, pour continuer avec lui le chemin, ce qui indique le bâton. Tout cela doit en outre se passer à travers la médiation de Moïse, que Dieu veut. Dieu désire que le peuple perçoive dans le geste de Moïse parlant au rocher, celui des médiateurs de la parole de Dieu qui agit et qui donne la vie, et pas simplement les gestes magiques d'un homme avec ses instruments de travail. Ce serait avoir un regard partiel que de penser que c'est le bâton qui, à travers la nature, le rocher, donne l'eau capable de satisfaire la soif momentanée du corps. En effet, le geste muet de Moïse, frappant le rocher avec son bâton, au lieu de transmettre une parole, concentre l'attention sur lui, qui frappe même deux fois. Moïse voudrait, avec fausse compassion, épargner au peuple l'effort de faire le long chemin de la foi en Dieu, qui est celui qui vraiment donne l'eau. Ainsi permet-il au peuple de satisfaire sa soif momentanée, sans se poser d'autres questions sur le sens de la vie et sur celui qui vraiment la donne. Moïse agit en faux père compatissant. Il donne au peuple ce qu'il lui demande, sans demander au peuple d'avoir confiance ni en Dieu ni en lui-même, son médiateur. De plus, il est le premier à montrer comment ne pas suivre les indications de Dieu, puisqu'il ne fait pas totalement confiance en Dieu ni en la parole puissante que Dieu lui a confiée, à lui et à son frère Aaron. Moïse se rebelle et résiste à la mission qui lui a été confiée en tant que ministre prophète de la parole de Dieu qui agit. Nous voulons voir qu'est-ce que signifie pour nous cet épisode du livre de Nombres dans le contexte médical du maternalisme, dans un choix entre le contrat médical thérapeutique ou l'alliance thérapeutique. Cet épisode biblique nous permet de mettre en lumière une manière de percevoir les choses que nous pourrions appliquer à la médecine. On peut aussi rencontrer cette attitude du faux père compatissant entre médecin et patient. Le médecin devient un simple exécuteur des désirs du patient, totalement autonome. On tombe alors dans un maternalisme où le rapport est dominé par un contrat, ou du moins par les vouloirs d'un patient capricieux qui ne voit dans les médecines que des instruments manipulés par ceux qui détiennent des connaissances aptes à changer le décours de sa maladie grâce à un pouvoir accru sur les forces de la nature. C'est intéressant de voir comment dans les cas encore décrits par Tugdual d'Herville dans la bataille sur l'euthanasie, la question du maternalisme revient quand les mères, surtout des mères, comme dans le cas de Vincent Hubert, décide de donner la mort à son enfant. Parce qu'il devient un rapport fusionnel, mais surtout devient, l'expression que la mère doit tout faire. C'est elle qui doit tout faire, ne peut pas laisser à d'autres faire leur chemin. Dans ce type de démarche qu'on a décrite, on ne cherche que des remèdes et des solutions thérapeutiques. Mais parfois, en découvrant leur inefficacité, on perd confiance envers les médecins et même envers les familiers, parce qu'ils n'ont pas été capables d'assurer assez de vie là où la vie manque. À cause de cela, on en arrive à invoquer la mort. Dans le cas de l'euthanasie, le patient veut que ce soit les médecins qui lui permettent d'attendre au plus tôt la mort. Le médecin qui réalise une euthanasie abdique de son ministère, parce qu'il ne peut plus rien faire pour guérir le patient malade. Il pourrait encore faire beaucoup pour l'accompagner par des soins qui calment la douleur et une parole qui donne vie, qui fait vivre jusqu'au bout malgré la souffrance et même jusqu'à la proximité de la mort. Alors la question du ministère, de la parole, c'est important comme nous avons aperçu à travers le livre des Nombres. Dans le contexte de l'éthique médicale des années 70, avec le refus du paternalisme, compris comme la situation où le médecin décide de tout, niant tout éventuel avis éclairé de son patient, l'apparition de l'expression « alliance thérapeutique » utilisée par ces deux théologiens, Paul Ramsey et William May, entre au service du patient pour aider le patient à trouver des images symboliques nouvelles capables de lui redonner confiance en ses relations avec les médecins. Reprendre aujourd'hui l'expression « alliance thérapeutique » permettrait de dépasser l'idée qui se répand de plus en plus, d'un accord contractuel entre médecin et patient. Et ceci particulièrement si la formule est placée au regard de la source première qui l'a fait naître, l'alliance biblique dans une exceptionnelle richesse de résonance. En effet, l'expression alliance thérapeutique vient du monde biblique. Brise de Malherbe, Malherbe affirme en effet, je cite, « Derrière ces images surgit le Dieu de l'Alliance révélé dans les Écritures. Or, l'expérience clé de l'Alliance de Dieu avec Israël, telle qu'elle est vécue par celui-ci dans le Sinaï, fait ressortir trois éléments essentiels. Un don originel, la délivrance du pays d'Égypte, une promesse fondée sur ces dons, le vœu prononcé sur le Sinaï, enfin, l'engagement à une fidélité à l'Alliance, à travers l'acceptation d'obligations rituelles et morales. La référence à l'alliance place le médecin et le patient, tous deux débiteurs vis-à-vis du don reçu de Dieu, engagés l'un vers l'autre. Le médecin s'engage à une fidélité à la promesse du soin, dans un engagement désintéressé, dépassant les limites d'un accord contractuel. Et c'est ce accord contractuel que parle Brice de Malherbe. En cherchant à approfondir les racines bibliques et théologiques de l'utilisation de l'expression alliance thérapeutique, nous découvrons que la tentation de l'euthanasie est à rejeter parce qu'elle contredit cette idée de communion capable de reconnaître le bien de la personne et la personne elle-même comme un bien, en regardant la personne qui souffre dans une communauté d'alliance. L'euthanasie et le maternalisme d'un faux père compatissant qui la réalise constituent la rupture de cette alliance de communion et le déni de la communauté d'alliance. Mais cette alliance est également bafouée par le paternalisme du médecin. Et je veux maintenant, dans la deuxième partie, décrire ce paternalisme d'un faux père tout-puissant comme négation de l'alliance thérapeutique et comme l'affirmation de l'acharnement thérapeutique. C'est un regard critique sur le paternalisme des médecins. C'est vrai, les malades ont peur d'être abandonnés, mais il y a comme dans cette première partie que j'ai fait une confrontation entre l'acharnement ou les dons de la manne dans l'épisode de Nombre 21. Après l'épisode du don de l'eau qui jaillit du rocher, la marche dans le désert va bientôt montrer, avec l'épisode des serpents et du serpent d'Arin, un autre lien avec la médecine. En effet, nous avons initialement abordé le texte de Nombre 20 et pouvons maintenant le mettre en parallèle avec celui de Nombre 21, où le peuple renverse la perspective. En effet, le peuple s'est plaint d'être abandonné à la mort, avant l'invoquer, maintenant s'est plaint d'être abandonné à la mort, et invoque l'intervention d'un Dieu tout-puissant pour obtenir tous les biens qu'il désire. Mais Dieu continue à l'éduquer en le mettant à l'épreuve. Nombre 21, 4, 6. Le peuple perdit courage en chemin. Le peuple s'est mis à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui les mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Pourtant, cette fois-ci, le peuple reconnaît son péché et demande à Moïse d'intercéder auprès du Seigneur qui lui répond: fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une lampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Nombre 21, 8. Nous proposons d'apercevoir la clé de ces textes de l'Écriture à travers ces deux mots. Je ne peux pas citer ce texte de l'exégète, je n'ai pas le temps, mais pour dire que les mots clés de ce texte, c'est les mots signe et confiance qui revient au cœur de cette expérience. En outre, en Nombre 21.4 par rapport au Nombre 24.5, à travers la série de pourquoi que nous avons précédemment évoqué, le peuple supplie pourtant que la mort maintenant lui soit épargnée et qu'une autre nourriture lui soit donné à la place de celle que Dieu lui garantissait chaque jour. Cette nourriture était le signe de la vie, signe que la vie était donnée par Dieu. En la dépréciant, cette nourriture, les peuples seront vulnérables, s'exposent à la mort, qui correspond à la non-confiance en Dieu et à la et en sa bonté prévoyante. Le peuple accuse Dieu de les laisser mourir, de ne pas intervenir de manière toute puissante dans les déserts en donnant du pain, de l'eau, de la viande. C'est comme disait le diable face à Jésus, fais que ces pierres deviennent de pain. La même logique s'installe dans les rapports médecin-patient lorsqu'on parle de paternalisme. Le médecin est vu comme un faux père tout-puissant qui, dans les épreuves de la maladie, pourrait tout faire et tout donner. La guérison, la santé et même sauver de la mort. Dans un deuxième temps, je parle de l'idolâtrie de la médecine par rapport au serpent et au serpent d'airain. Devant la mort, peut se déclencher la revendication d'une solution miraculeuse offerte par la médecine. Les patients ou les familiers souvent ne demandent plus seulement des moyens thérapeutiques proportionnés aux résultats et bénéfices prévisibles attendus, ni les thérapies appropriées disponibles, mais ils demandent davantage de faire tout le possible et même l'impossible pour éviter la mort et pour avoir un peu plus de vie, sans percevoir que ce que les médecins sont en train de faire est déjà fait pour la vie. Il s'agit de vie, même si on ne peut pas en avoir davantage. Les patients ou les familiers peuvent en arriver à accuser les médecins de les laisser mourir sans rien faire. De plus, les médecins pourraient finir par croire pouvoir être ce Père Tout-Puissant et devenir le sauveur d'autrui. Dans ce cas, nous faisons face à l'idolâtrie de la médecine, une médecine malade de toute puissance. Cette médecine-là est bien représentée par le serpent sur une hampe. C'est le symbole antique du dieu guérisseur. Parmi les Grecs et les Romains, Esculape, ainsi que dans les populations qu'Israël côtoie. Avec la Renaissance et avec les prouesses scientifiques des derniers siècles, nous avons enlevé à la médecine ses côtés magiques et religieux, mais non pas celui idolâtrique qui fait croire dans sa toute-puissance. C'est l'échec de cette expérience de confiance aveugle dans la médecine qui provoque le désespoir, y compris envers Dieu. Tu me laisses mourir à la place d'intervenir de manière toute puissance. L'homme devrait se laisser mettre à l'épreuve dans ses croyances dans la médecine toute puissante mais Dieu lui-même à l'épreuve. Mais Dieu accepte le défi. C'est Dieu lui-même qui demande de faire préparer un serpent d'airain sur une hampe, Dieu qui prend soin du peuple dans les déserts et l'accompagne constamment pour lui donner la vie chaque jour, démontre que c'est lui encore qui guérit de la maladie et qui sauve de la mort. Pour le démontrer, Dieu fait expérimenter à son peuple les dangers de la mort que lui-même n'a pas voulu. C'est le peuple qui a refusé les signes de la vie que Dieu donnait, en refusant la manne. Et Dieu utilise les signes même de la médecine, le serpent d'airain sur une hampe. Mais en effet, ce n'est pas qu'un signe, et il n'est pas une idole. La confusion vient de voir la médecine comme une idole et pas comme un signe. Le médecin peut donner un remède, mais c'est Dieu qui guérit. Cette affirmation n'est pas irrationnelle et fait partie au contraire de la sagesse universelle des peuples au long de l'histoire. La médecine est donc l'une des plus évidentes formes de collaboration avec Dieu dans la coopération au bien de son prochain qu'il est malade faible et découragée en chemin. Elle est proche de la collaboration que Dieu demande aux parents de donner la vie à un nouvel être humain pour le nourrir et l'éduquer. Mais on peut oublier ce lien de collaboration pour n'en garder que les signes en faisant devenir ces signes une idole. Par contre, en regardant les signes avec foi en celui qui l'a donné, on est guéri de foi dans son corps et dans son âme. Dieu a transformé les signes de la mort, le serpent, en signes de la guérison et du salut. Comme il a transformé les signes de la mort du Fils de l'homme élevé en signes de vie. Alors, au milieu de cette relation paternaliste, qui par réaction à l'inefficacité de cette toute-puissance espérée, on retombe à nouveau à demander la mort, à demander l'euthanasie. C'est comme si dans l'épreuve de la maladie, on expérimente l'efficacité, ou bien on jette le masque de cette toute-puissance et on demande alors l'euthanasie. Tugdual Derville, dans ce texte que j'ai signalé, dit que les campagnes en faveur de l'euthanasie démontrent qu'en certains cas, se crée autour des malades cette pression sociale qui, de manière peu explicite mais néanmoins indéniable, est celle-ci. C'est mieux que tu meures, parce que tu es difforme, parce que tu es hémiplégique, parce que ton image de souffrance nous dérange. Cette pression sociale est perçue par la personne malade comme une demande qui lui est adressée afin que, je cite, qu'elle se fasse administrer la mort et disparaisse. Tugdual Derville conclut, on peut méditer sur l'impatience des bien portants à vouloir avoir s'éteindre les personnes en fin de vie dont l'aspect dérange et sur l'image d'elle-même que cela renvoie aux personnes malades. Fin de la citation. N'est-ce pas cela une cause de la demande d'euthanasie? Comment assumer et dépasser cette image? Comment la transformer? Il faut regarder à nouveau le serpent d'Arin dans un dialogue inattendu, comme un dialogue entamé entre les malades et les gens qui l'accompagnent et l'aiment, sans les regards qui tuent, mais plutôt avec un regard maternel qui fait vivre. Alors, ce regard qui tue et ce regard maternel qui fait vivre, je l'ai pris dans le livre de Tugdual Derville. La troisième partie est donc recomprendre l'alliance thérapeutique après avoir vu les deux extrêmes qui la dénigrent. Ça veut dire recomprendre l'alliance thérapeutique comme le vrai père du Fils de l'homme qui fait naître de l'esprit. C'est un regard sur la paternité du médecin comme signe de la vraie paternité de Dieu. Je parle naturellement du dialogue de Jésus avec Nicodème qui a repris cette image du livre des Nombres du serpent élevé. Je cite Jean 3,14 « Comme Moïse a élevé le serpent dans les déserts, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. » Pour comprendre l'alliance thérapeutique, il faut comprendre l'évolution, les étapes, les chemins que Nicodème accomplit dans les dialogues avec Jésus. Nicodème fait un chemin. Celui-ci semble, Nicodème entre enfermé au début dans l'impossibilité de naître d'en haut, car on ne peut pas évidemment entrer en seconde fois dans le sein de sa mère et naître quand on est vieux. Mais après, Nicodème s'ouvre en demandant la manière par laquelle cela pourrait advenir. Comment cela peut-il se faire? Et encore, Nicodème donc passe de l'impossibilité de renaître, à admettre une possibilité, après que Jésus lui a parlé de l'action maternelle de l'Esprit qui fait naître à nouveau, naître de l'Esprit. Yves Simons décrit ce changement de Nicodème en disant que la deuxième question de Nicodème fait avancer le discours de Jésus. Elle n'est pas saugrenue. Nicodème a été déplacé par rapport à son point de départ, nous savons. Il pose la bonne question qui révèle une ouverture, un consentement de ne pas savoir. Fin de la citation. Alors, dans les dialogues, même avec les personnes malades, ce n'est pas seulement avec Nicodème, avec les dialogues avec les personnes malades, qui demandent souvent l'euthanasie, se fait ce chemin qui ouvre à une autre possibilité. Souvent, des personnes malades qui avaient fait demande d'euthanasie, après un chemin, changent d'avis. Celles sont accompagnées, celles ne sont plus seules. Celles comprennent qu'à travers ce chemin, elles peuvent renaître à une vie jusqu'au bout. C'est un peu le dialogue avec Nicodème qui nous montre qu'il faut découvrir de ne pas être seulement appelé à être né de la chair, mais aussi de l'esprit. Il faut quitter le plan de la chair, commente encore Yves Simons, mais ce n'est pas de n'importe quelle manière, mais par l'engendrement de l'esprit. C'est dire qu'il s'agit d'échapper à l'opposition dualiste chair-esprit pour laisser l'esprit assumer la chair. L'enjeu, c'est une théologie de la résurrection des corps qui permet d'en vivre par anticipation dans le temps. Fin de la citation. À partir de cette vision, une nouvelle espérance naît également pour les malades en phase terminale. Ce passage que j'ai appelé le passage des signes de Jésus au signe qu'est Jésus. Dans les dialogues avec Nicodème, il faut ensuite faire attention au signe de Jésus et au signe qu'est Jésus. Jésus a probablement déjà accompli des guérisons et des miracles, et Nicodème lit ces signes, comme l'évangile de Jean les appelle, à l'action de Dieu en Jésus. Nicodème comprend donc bien la logique des signes, mais Jésus l'invite à aller plus avant sur ce chemin. Nicodème est personnellement appelé à poursuivre sa route pour être engendré d'en haut et pour voir le royaume de Dieu, jusqu'à devenir enfant de Dieu, né de Dieu. En suivant cette logique vers un au-delà, vers l'accomplissement, qui en même temps c'est l'accomplissement des Écritures, Jésus pose la comparaison entre les serpents élevés par Moïse dans le désert et le Fils de l'homme élevé, demandant ainsi à Nicodème de voir les signes qu'est Jésus lui-même. Au travers des signes, une promesse plus grande se dévoile. Dans ce contexte, les signes de la médecine, comme également la possibilité de recouvrer la santé et la réalité du salut, sont à nouveau proposés. Mais proposé en Jésus, le Fils de l'homme, qui renouvelle cette collaboration, cette médiation humaine pour recouvrer la santé et recevoir le salut, qui devient encore plus forte et décisive, cette demande de médiation et de collaboration. Mais toujours comme une analogie. La collaboration de l'homme est nécessairement demandée par son salut et aussi pour sa santé. Croire en Dieu et faire confiance au médecin, tous les deux sur des plans différents, bien sûr, sont entrelacés, comme le sont le ciel et la terre dans les dialogues avec Nicodème. Les choses de la terre, dit Yves Simons, symbolisent les choses du ciel. Si Dieu donne le salut en donnant son Fils, pouvons-nous conclure, comment avec son Fils ne donnerait-il pas tout? C'est Romains 8, 32. On pourrait faire un autre pas et voir l'alliance thérapeutique comme une façon de faire la vérité. Faire la vérité, c'est une expression de l'évangile de Jean à la conclusion, à conclusion de l'épisode avec Nicodème. L'alliance thérapeutique est alors l'expression particulière relative à la guérison de l'alliance du salut entre Dieu et l'homme. En introduisant son commentaire à Jean 3, Yves Simon se montre le contexte de l'évangile. Nous sommes situés toujours dans l'alliance au niveau de la situation principale du point de vue de ses implications concrètes et selon les deux partenaires en présence, l'homme et Dieu. Jésus est le médiateur de cette relation. Cette alliance est réalisée par Jésus, envoyé pour sauver les hommes, avec Jésus, qui entre en dialogue avec les hommes pour les conduire dans l'alliance avec Dieu, en Jésus, qui grâce à la foi en lui a été élevé et permet de naître de l'Esprit. Dans cette démarche progressive de Nicodème vers la foi en Jésus, vers la compréhension de cette médiation de Jésus entre lui et Dieu, nous découvrons l'importance et de la médiation des médecins et de la médecine et son renouvellement. Le changement, c'est le prochain pas, c'est le changement du symbole du serpent, le serpent d'Arin, au Fils élevé. L'idée du paternalisme, qui a été provoquée par l'idée d'un Père tout-puissant, selon une idée erronée de Dieu et de sa toute-puissance, est écartée par le mystère de Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le sauver. La toute-puissance de Dieu ne va pas sans la souffrance du Fils qui partage notre souffrance. Et ce Fils devient un pharmacon, comme disait Ignace d'Antioche, un pharmacon d'immortalité qui change les signes de la mort en signes de la vie éternelle. Le salut offert assume en lui à la fois les signes de la guérison possible, représentés par les serpents d'Arin, et la réalité de l'élévation du Fils de l'homme qui traverse la souffrance et la mort avec chaque malade, pour un plus de vie. Mais, en tout cela, il faut exprimer une nouvelle confiance dans le Fils élevé à travers le nouveau symbole qui est le serpent d'Arin, croix, vie. Si nous pensons que le serpent d'Arin est disparu dans nos rues, nous nous trompons. Regardez en dehors d'une pharmacie, vous trouverez ce signe, représenté même de manière cryptique parfois. Il se trouve sur les ambulances. C'est le signe du caducée, c'est-à-dire le serpent autour du bâton. Et sur le fond, s'étale aujourd'hui un astérisque qui autrefois était une croix. On a maintenu dans notre culture des pharmacies, des ambulances, de la médecine en général, ce signe de serpent qui donne la guérison. Il y aurait un autre passage qui est celui des exemples. Saint Paul, je le dis brièvement, Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, reprend tous ces parcours du peuple dans les déserts, le symbole de l'eau du rocher qui est le Christ, le symbole de l'idolâtrie du peuple qui ne fait pas confiance en Dieu, et les appelle les exemples pour nous. Ce serait l'occasion pour retrouver dans ces exemples le sens moral de l'Écriture et de ce parcours que nous avons vu du peuple dans les déserts. Mais je veux conclure avec l'affirmation que cela, Est-ce que face au refus du paternalisme, qui est important parfois, qui est important, on ne peut pas accepter un paternalisme où le médecin décide de tout, est-ce qu'en refusant cela, nous ne risquons pas de refuser l'aspect de paternité que le médecin doit garder comme signe d'une paternité plus grande? Alors, c'est cela que c'est important pour la question de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique n'est pas une alliance entre deux partenaires qui ont les mêmes responsabilités, ont des responsabilités différentes. Et chacun doit garder sa responsabilité propre. Mais comme disait Brice de Malherbe, cette alliance et cette responsabilité est fondée par quelque chose qui précède tous les deux. Brice de Malherbe disait l'amour de Dieu, cette alliance de Dieu qui précède tous les deux. Et alors, à travers la relecture aussi du dialogue de Jésus avec Nicodème en Jean 3, nous redécouvrons la nécessité de récupérer à travers Jésus le serpent élevé, mais Jésus élevé sur la croix, nous avons, sentons la nécessité de récupérer ces signes de la paternité dans le contexte médical. Brice de Malherbe a souligné que l'amour du prochain situe les bénéficiaires de l'alliance avant tout comme frères, tributaires de l'amour des mêmes pères. Même si l'analogie proposée par May et Cattorini des alliances thérapeutiques en relation entre Dieu et Israël et en relation entre médecin et patient garde une certaine pertinence dans la mesure où le médecin peut être figure de celui qui est fidèle au don précieux de la vie, plus juste, d'après Brice de Malherbe, est la considération des deux partenaires de l'alliance thérapeutique, médecin et patient, comme débiteurs de l'amour premier de Dieu et appelés l'un et l'autre à vivre l'amour du prochain. C'est à l'intérieur de cet amour mutuel, moteur de la communion des personnes, que peut se vivre et vérifier le respect du bien de la vie à la lumière du bien de la personne. Alors, nous avons découvert, comment dire, les fondements, à travers ce parcours, à travers ces affirmations des Brice de Malherbe, de l'idée de l'alliance thérapeutique. Il faudrait apercevoir aussi cet élément que peut-être, avec l'euthanasie, on risque de tomber dans ce qu'on appelle en philosophie l'hétérogénèse des fins. Qu'est-ce que signifie? Le serpent qui représentait le symbole de la médecine, parce que des signes de mort avec son poison, il avait été changé en signe de vie avec son antidote, et parce que le serpent était devenu inoffensif, était devenu d'arin. Le serpent n'était pas plus la source de la mort, un arin sur le bâton, comme un mort, ce serpent risque avec l'euthanasie de se réveiller et de nouveau devenir un serpent qui donne, avec sa morsure venimeuse, donne une mort cherchée, demandée, voulue. Je ne sais pas si je suis arrivé à faire comprendre le symbole. La médecine avait rendu inoffensive le serpent, l'euthanasie le réveille. C'est la même médecine devenue celle qui cherche la morsure venimeuse du serpent. Pour conclure, je veux dire quelques idées sur l'euthanasie et le transhumanisme, car la lecture de ce livre d'Edouard Derville, j'ai pu repérer cette hétérogénèse des fins. Cette médecine qui fait réveiller le serpent mort a été reprise dans la perspective transhumaniste lorsqu'elle pose comme principe de la mort que la mort sera et deviendra volontaire. Pour le transhumanisme, vu que tous seront immortels, la mort deviendra volontaire, un choix personnel. Mais, comme nous l'a rappelé Monette Vaquin, le transhumanisme ne cherche pas la maîtrise du tout. Au contraire, il cherche à nous porter dans l'immaîtrisable. En effet, si nous regardons la pente glissante de l'euthanasie et de législation sur l'euthanasie dans les pays qui l'ont introduite, l'élargissement toujours grandissant des cas et des raisons pour l'accorder, la pensée naïve de pouvoir l'encadrer afin d'éliminer les euthanasies clandestines qui continuent malgré tout à se développer en parallèle sans fléchir en nombre, démontre que l'euthanasie est, c'est l'expression de Duhal d'Herville, est administrativement incontrôlable. Incontrôlable. C'est ça l'expression avec la proximité avec le transhumanisme. Le transhumanisme veut nous porter dans l'incontrôlable et administrativement, l'euthanasie est incontrôlable. On le voit dans tous ces élargissements. En outre, cette continuité entre euthanasie et transhumanisme, nous pouvons l'apercevoir à partir de la même aversion contre la nature. Parce que, concernant les cas d'euthanasie, je cite du Duhal d'Herville, ce ne sont plus tellement les cas exceptionnels qui posent question, mais une évolution des mentalités, selon laquelle, je cite à l'intérieur de la citation, on ne pourrait plus mourir soi-même, faire confiance à la nature, il faudrait y être aidé. À notre avis, il s'agit d'un premier glissement vers le transhumanisme qui s'exprime ainsi dans le langage que dans ce contexte d'euthanasie est toujours utilisé. La notion même de meurtre disparaît au profit d'une notion d'aide et d'assistance. Le deuxième glissement vers le transhumanisme, nous l'avons perçu dans le passage que Duhal d'Herville exprime ainsi. L'histoire de l'euthanasie commence par des actes revendiqués par ceux qui affirment vouloir mourir et se poursuit inexorablement par la suppression des personnes qui n'ont rien demandé, ne serait-ce parce que, constatant qu'ils sont incapables de s'exprimer, on prétendra agir en leur nom et dans leur intérêt. Fin de la citation. Et nous ajoutons, surtout dans l'intérêt de la nouvelle nature de l'homme post-humain que les transhumanistes cherchent à réaliser en éliminant le vieil homme qui ne peut pas devenir nouveau. C'est la culture du déchet à jeter. Bien, je voudrais conclure simplement en disant, la conclusion plus longue, vous la trouverez dans le dossier, que cette idée de l'alliance thérapeutique veut nous faire découvrir, je l'ai moins souligné dans le dialogue avec Nicodème, mais je le fais maintenant, une réalité de découvrir la médecine dans sa dimension de maternité et paternité. Le maternalisme et le paternalisme, c'est la trahison d'une vocation de maternité qui s'exprime surtout dans les soins palliatifs et dans une dimension de paternité du médecin qui agit à l'intérieur de l'alliance thérapeutique, pas dans un rapport entre égaux, mais pas entre les mêmes. Il faut que leurs différences respectives soient soulignées, surtout dans les dévouements demandés au médecin. Le médecin prend soin toujours et parfois guérit. En lui, Dieu va sauver à travers son Fils élevé. Il montre donc qu'il est possible d'attribuer un sens à la mort. C'est seulement dans ces fondements du Fils élevé que le serpent élevé sur la hampe restera signe de vie et ne deviendra pas signe de mort. Merci.